Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine sur le podcast, on parle de du meilleur moment pour se lancer, du meilleur moment pour investir. Donc sur ce, bonne écoute.
Je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Je me suis arc.
Seconde.
Combien? 11?
Ouais.
Ah, c'est pas très bon, ça.
Je suis un peu
Tu peux faire mieux, Samuel.
Monsieur enfargé.
Alors, les gars, un épisode un peu plus technique.
Ouais.
C'est quoi une support résistance?
Alors, un support, c'est ce qui arrive lorsque tu as une bonne conjointe. Une résistance, c'est quand tu t'es trompé de partenaire de vie. Vas-y, on commence.
Beaucoup de personnes se sont...
Vous voulez commencer avec quoi? C'est du marché.
100%, je pense que c'est nice qu'on parle un peu de ce sujet-là. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas venu un peu plus dans le côté technique, les cycles du marché, cycles psychologiques, comment l'argent circule d'un endroit à l'autre. Donc, on va aller dans ce côté-là un peu plus technique, vu que c'est vraiment le moment de s'éduquer et de savoir ce qu'il y a à faire parce que le bull run est déjà arrivé sans que vous le sachiez.
On est actuellement dans quel cycle, Sam? Du marché.
On est dans le cycle lunaire. Mais on va commencer par parler un peu des cycles psychologiques parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Lorsqu'on regarde le marché, il faut comprendre que le marché, c'est de la distribution et c'est de l'accumulation. Sur moi, un exemple que j'aime souvent utiliser, puis que je pense que j'ai utilisé à l'épisode genre 10, donc sûrement que vous ne l'avez pas écouté, alors je vous le résume ici, c'est que pour que je puisse vendre quelque chose, je dois accumuler cette chose-là en premier. Si, par exemple, moi, je suis une institution, j'ai des millions de dollars et je veux maintenant... Je vais dans un magasin de montres, puis je dis, exemple, je veux acheter toutes les Rolex. Tiens, allez, j'achète toutes les Rolex à Montréal. Je veux 1000 Rolex. Je veux 10 000 Rolex. Est-ce que tu penses que je vais rentrer dans la bijouterie et je dis, je vais vous acheter 10 000 Rolex? Bon, premièrement, le gars, il va faire des très gros yeux. Mais deuxièmement, est-ce que tu penses qu'il a 10 000 Rolex dans la bijouterie? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir aller dans plusieurs bijouteries à Montréal. Je vais devoir faire le tour de toutes ces bijouteries-là.
Et faire des commandes.
Et faire des commandes et acheter. Parce que premièrement, je ne vais pas pouvoir acheter tout à un endroit. Et même si je fais toutes les bijouteries à Montréal, je te promets que je n'ai pas mes 10 000 Rolex. So, je vais devoir aller à chacune des grosses bijouteries, faire des commandes, acheter ce qu'ils ont en stock. Et peut-être je vais réaliser, OK, le max que je peux acheter maintenant, c'est 1000 Rolex. Et ensuite de ça, 1000 Rolex par mois. Si j'achète 1000 Rolex par mois et que je voulais acheter mes 10 000 Rolex, ça va me prendre combien de temps? 10 mois. Ça me prend 10 mois à accumuler toutes les Rolex que je voulais. Mais 10 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant qu'institution, pourquoi j'accumulerais quelque chose? Dans le but de le revendre, on est d'accord? C'est de l'offre et de la demande. So, une fois que je viens d'acheter ces 10 000 Rolex-là dans 10 mois plus tard, qui contrôle maintenant presque toute l'offre, même voire toute l'offre des Rolex au Québec, même? Ah, dans la région de Montréal et au Québec.
Samuel Lévesque.
Moi, exactement. Alors maintenant, si tout d'un coup, je contrôle toute l'offre et que la demande continue à augmenter et que même peut-être je fais de la publicité pour exciter les gens à acheter des Rolex. Je leur dis, hey, si t'achètes une Rolex, elle va doubler de valeur dans les prochaines années. T'as même pas aucune idée. Qu'est-ce que je fais? Je commence à faire de la publicité pour exciter les gens à venir acheter cette Rolex. Exactement ce que les médias font avec la crypto et les investissements. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens, oh my God, si j'achète une Rolex, elle peut doubler de valeur en 2 ans. OK, je vais aller acheter une Rolex. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je crée cette excitation, mais c'est moi qui contrôle toute l'offre. Alors, la demande augmente, mais l'offre, elle n'est pas en circulation. Est-ce que l'offre, elle existe? Oui, elle existe. Mais elle n'est pas en circulation. Et ce qui compte, ce n'est pas l'offre qui est existante, c'est l'offre en circulation. L'offre en circulation n'est pas là parce que c'est moi qui contrôle tout. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire maintenant? Ils vont être prêts à racheter les Rolex beaucoup plus cher. Si moi, j'ai acheté chacune des Rolex à 10 000, je vais pouvoir les vendre 15 000, 20 000. Pourquoi? Parce que les gens ont cette croyance que, hey, ça va doubler et la demande augmente. Et vu que je contrôle l'offre, ben la demande est beaucoup plus forte que l'offre et le prix automatiquement augmente. Économie 101. Maintenant, je commence, je vends. Et le marché, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il monte. Mais à un certain point, la demande commence à être plus grande que... l'offre commence à être plus grande que la demande. Parce que maintenant, tout le monde a des Rolex et ils l'ont acheté pour faire de l'argent. Ils veulent essayer de les revendre. Moi, maintenant, il me reste 2000 Rolex. Et puis, j'ai déjà fait largement du profit parce que j'avais acheté 10 000 Rolex pour 10 000 $. Et maintenant, je les ai revendus à 15, 20, 25, 30 000. Donc, même avec les 8 000 que j'ai vendus, je suis largement en profit. Et là, il me reste 2, 3 000 Rolex. Paf! Je mets toute cette offre sur le marché. Le marché, eux, leur but, c'était quoi? Eux aussi voulaient faire de l'argent, mais monsieur, madame, tout le monde, ils voulaient flipper leur Rolex ou peu importe. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le marché a explosé et l'offre était plus petite que la demande. Maintenant, c'est l'inverse. L'offre est en train de devenir plus grande que la demande. L'offre en circulation commence à égaler même la demande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le prix se stabilise et doucement commence à descendre. Et là, moi, mon but maintenant, que j'ai vendu à tout le monde toutes les Rolex, ça va être de quoi? De le racheter pour moins cher. Donc, mon but, c'était de l'acheter à 10 000 pour te le vendre à 20 000, mais te la racheter à 15 000. Alors maintenant, le prix commence à descendre. L'offre devient beaucoup plus grande que la demande. Les gens essayent de revendre parce qu'ils voient le prix descendre. Vu qu'ils essayent de revendre pour voir le prix qui descend, l'offre en circulation augmente plus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, la demande est rendue super faible. L'offre est extrêmement élevée. Et maintenant, moi, je commence à faire quoi? De la publicité pour dire aux gens, « Hey, finalement, c'est pas un bon investissement. Il y a tel défaut de fabrication. Il y a tel ci, il y a tel ça. Ça crash, c'est pas bon. » Et là, les gens commencent à s'inquiéter. « Oh my God, moi, j'ai payé 10 000, 20 000 pour ça. » Et je pensais faire 30 000. Et là, ça descend à 18 000, 17 000. Et les gens vont commencer à les vendre. Et là, tu vas voir le marché qui descend et qui corrige. Et là, maintenant, à un certain point, les gens vont être dans de la peur. Et ils vont être en train d'avoir acheté une Rolex à 20 000, mais la revendre à 14, 12 000 parce qu'ils ont peur de tout perdre. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? La même chose. Je recommence à tout racheter pendant 10 mois, 12 mois, 1 an, 2 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tout acheté, vendu à 10 000. J'ai revendu à 15, 18, 20 000. Et maintenant, je suis en train, après avoir vendu à 20 000, je suis en train de tout racheter à 12, 14, 15 000. Et je refais la même chose en quelques années parce qu'il y a toujours cette quantité limitée. Et donc, je viens contrôler l'offre et la demande comme ça. Mais pour faire ça, il faut que j'ai l'argent. Et la réalité, ben, c'est que 1% de la population a 99% de l'argent. Et donc, ils ont complètement tout le pouvoir nécessaire d'achat pour contrôler ça et publiciser ça ensuite.
Voilà. Quand Samuel réalise que son explication... Ben, en fait, un bel exemple de ça, c'est dans le film The Big Short. Quand ils sont en train d'acheter des contrats et le gars est en train de vendre le contrat aussi. Il est en voyage, il est dans un bar avec son laptop et ses écouteurs, mm-hmm. puis il est en train de vendre les contrats de genre 300 millions, 400 millions, 300 millions, 400. Et il ne peut pas juste arriver à une seule institution mm-hmm. et vendre 3 milliards de dollars de contrats. Il doit faire cette distribution, 300 par là, 300 par là, 400 par là.
Exact.
Mais ça, l'explication, elle est parfaite.
Ça, c'est la première chose à comprendre. C'est comme ça que le marché marche. Que tu regardes l'immobilier, les stocks, que tu regardes les commodités, l'or, l'argent, que tu regardes les cryptos.
L'immobilier.
C'est de l'offre et de la demande. C'est comme ça que ça marche.
On l'a vu durant le temps de la COVID, là, le prix des maisons ont tellement skyrocket. Mm-hmm. Les gens faisaient de la surenchère
exact.
Sur les maisons. C'est juste...
Qui n'était pas la vraie valeur.
Ben non.
Mais c'était quoi la publicité à ce moment-là? Le prix des maisons va augmenter, on ne va jamais être capable de s'acheter une maison. Boum. C'est la publicité de « on ne va jamais être capable, il faut faire maintenant ».
Tu t'en souviens, Sam? Je t'avais envoyé quelque chose, des « sell money ».
Ah oui. Les banques, oui, absolument. Ouais. Mais ça, c'est un sujet, si on rentre là-dedans, là, on va complètement
dire. Ça serait le même... Ouais, mais c'est le même concept un peu partout.
C'est le même concept, ouais.
Parce qu'en plus de tout ce que tu viens de partager jusqu'à maintenant, plus qu'il y a d'argent qui est imprimé, plus que le coût de la vie, le coût des produits font juste augmenter. Ils font, en plus de montant d'argent qu'ils font, ben là, ils font exponentiellement beaucoup plus d'argent, ces compagnies-là.
100%. Puis toute cette explication-là que je viens de donner, c'est pour justement pouvoir rebondir sur les cycles émotionnels. Les gens, justement, dans le marché, il y a les cycles émotionnels. Comment ça commence? C'est que les gens, ils sont désintéressés. Ils ne le regardent pas, ils ne sont juste pas intéressés. Ce n'est pas qu'ils ont peur, ce n'est pas qu'ils sont excités. Ils ne sont pas intéressés, ils ne le regardent pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à prendre du volume, ça augmente. Plus ça augmente, plus ça attire l'attention. Les publicités commencent à rentrer. Quand je dis les publicités, je parle de la médiatisation. Oh mon Dieu, OK, ça commence à être intéressant. Là, les gens rentrent dans ce cycle émotionnel où, OK, peut-être que c'est un vrai bull run. Peut-être qu'il y a de l'opportunité à faire de l'argent. Ensuite, on passe à, oh mon Dieu, ça y est, oui, yo, c'est un vrai bull run, faire de l'argent. Mais quand tu es rendu là, tu as déjà manqué 50% de la montée. Et ensuite, là, c'est, OK, ça y est, il faut rentrer. Tout le monde doit rentrer. On doit être complètement investi. Habituellement, tu as déjà manqué 70% du bull run quand ça arrive là, à toute la masse. Et quand tu arrives aux 80-90% du bull run et de la montée, les gens commencent à faire quoi? Acheter sur du margin, carte de crédit, prendre de l'argent sur l'hypothèque, parce qu'ils sont comme, waouh, c'est sûr, on va devenir riche, on doit acheter encore plus. Donc, ils vont chercher cette dette pour acheter encore plus. Ça continue à monter. Mon Dieu, on est des génies, on continue. Mais ça, guys, c'est littéralement après 70% du bull run. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ils regardent toute la montée. Ils veulent pouvoir attraper cette montée-là, mais il reste 20-30%. Et ensuite, ça tombe. Ça tombe, comme je vous ai dit, les gens commencent à vendre, les gens qui veulent racheter, rachètent. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les gens commencent à dire, OK, wow, ça corrige, mais c'est correct, on est correct. Ça va remonter, c'est juste une petite correction. Continue à corriger. Wow, ça continue à tomber. OK, merde, ça va pas. Ensuite, merde, colère, on est fâché. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et ensuite, après la colère, qu'est-ce qui vient? Le déni. Non, c'est impossible. En fait, non, c'est bon, c'est correct, ça fait pas de sens. Après le déni, qu'est-ce qui s'en vient? L'abandon complet. My God, ça marche pas, je dois tout vendre ou je vais perdre tout. Là, les gens, ils vendent parce qu'ils pensent qu'ils vont tout perdre. Et ensuite de ça, c'est un peu de colère, un peu de dépression. Et que ça retombe un peu après dans quoi? L'oubli. Le désintérêt. Et on repart. Désintérêt. Oh, est-ce que c'est vrai? Excitation. Margin. Nanana. Ça, c'est le cycle émotionnel du marché. Et ça existe depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Et ça, c'est pas juste pour la crypto. Exact. En fait, même ce cycle-là et cette étude qui a été faite, c'était avec Wall Street, c'était sur les stocks, c'était même pas sur la crypto. Parce qu'il y a deux choses qui vont toujours rester la même dans le marché. Seulement deux choses qu'on sait à 100%. L'argent fait bouger le marché. Donc, l'argent, l'offre et la demande, puis les émotions des gens. Il y a deux choses qui sont 100% sûres dans le marché. Peu importe que ça soit de la crypto ou de la crypto sur quantique, sur ordinateur quantique, ou peu importe quel asset, deux choses seront toujours réelles. L'argent et les émotions. Sur ça, c'est les cycles émotionnels. Puis après, à travers ça, quand on parle de crypto, là, tu as les cycles de la crypto. Parce que la crypto est cyclique. L'argent rentre en cycle. L'argent rentre dans des saisons. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'argent va rentrer dans Bitcoin, Ethereum en premier. Le cash rentre vers Bitcoin, Ethereum. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne doucement du momentum et de l'argent qui circule dans Ethereum. Ethereum, c'est le plus gros layer one. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça va vers d'autres projets crypto. Donc, les autres gros projets de crypto, par exemple, comme des projets comme Polygon, Chainlink, etc., qui commencent à gonfler et à exploser aussi parce que l'argent va vers eux. Après ça, l'argent découle vers les autres gros projets, moyens projets, plus petits projets. Et quand ça arrive aux moyens, plus petits projets, ça y est, ça commence à retourner vers Bitcoin et Ethereum. Alors, quand Bitcoin et Ethereum commencent à bien pomper, c'est le moment de s'intéresser à quoi? Au gros et medium market cap, alors que les gens s'intéressent à Bitcoin et Ethereum. Et quand ensuite, les gros et moyens market cap commencent à bien évoluer. Là, les gens sautent, ils suivent, ils courent. Les gens courent après le marché, ils courent comme des poules après du blé, genre. Ils sont juste là comme... Et là, quand ils voient... Maintenant, c'est les gros market cap et les medium market cap qui augmentent. OK, vite, on va après ça. Mais l'argent, ça veut dire qu'elle est déjà passée là. Donc, si l'argent est déjà passé là, ça veut dire qu'elle est déjà plus là. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Si elle est déjà passée là pour faire le mouvement, elle est donc déjà au prochain point. C'est comme si, exemple, toi, tu es en train de conduire et moi, je conduis derrière toi, puis je te dis, viens me chercher à telle intersection. Mais toi, tu continues à conduire. Mais moi, le temps que j'arrive à cette intersection, toi, tu es déjà à l'autre. Et donc là, les gens arrivent sur le medium cap et tout ça, mais l'argent est déjà rendu vers quoi? Et voilà. Et ça, c'est pendant le bull run. Et après, il y a les plus gros cycles et tout. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de s'éduquer. Là, j'ai essayé de t'expliquer ça sans graphique et tout le plus rapidement possible, mais c'est des concepts extrêmement importants.
J'aimerais ajouter un point sur ça parce que là, tu écoutes cet épisode et tu dis, OK, Alors, je dois apprendre, je dois m'éduquer, je dois apprendre. Puis là, quand je vais être dans l'action même, je dois essayer de timer le marché. Est-ce que je suis dans une phase d'euphorie ou est-ce que je suis dans une phase de dépression, etc. La réalité, c'est que tu n'as pas une boule de cristal, tu ne vas jamais pouvoir savoir.
C'est impossible de
quand
timer le marché.
Quand il y a eu la récession en 2008 et que gold et le prix de l'or est tombé 35%, personne n'aurait pu savoir que gold allait partir pour un autre 8 ans de bull run. 8 ans où à chaque année, après année, il a fait entre 30 à 45% même, voire plus, de croissance par année. Alors là, c'est sûr qu'on peut se baser avec ce qui se passe en crypto. Même chose, on peut se baser sur ce qui s'est passé auparavant, mais on n'a pas de boule de cristal. C'est là où c'est hyper important, oui, de s'éduquer. Mais après, tu ne peux pas prédire les choses.
Non.
Si Bitcoin aujourd'hui est à 150 000, tu ne peux pas prédire que demain, il va être à 300. Comme tu ne peux pas prédire que demain, il va être à 50. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? C'est d'un plan.
Un bon plan
trading et un plan d'investissement. Savoir exactement où est-ce que tu sors en perte, si tu sors, où est-ce que tu sors en gain et à combien de pourcents. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de plan, c'est cool de pouvoir timer le marché, mais comme on disait souvent, tu peux aller à 700%, 900%, tu ne vas toujours pas prendre profit parce que tu penses que ça va être la loterie, la prochaine destination, terre promise.
Et ton plan, ça doit être une voiture 4x4 avec laquelle tu fais le tour du Canada parce que, comme Roman a dit, tu ne sais jamais dans quelle saison tu arrives. C'est impossible de timer le marché. Sauf qu'on n'a pas besoin de le timer. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une bonne stratégie. Comme ça, dans ta voiture 4x4, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, elle fonctionne. Et dans ton véhicule, tu as un maillot de bain, mais tu as aussi des bottes d'hiver.
C'est important d'avoir des pneus 4 saisons aussi.
Exactement. Hein? Avec tes pneus 4 saisons. Sauf tu ne sais pas exactement ce qui va arriver, mais ce n'est pas grave. Parce que tu as un plan et tu as une stratégie avec l'éducation pour que peu importe ce qui arrive, tu es correct et tu gagnes.
All right.
That's it.
That's it.
Donc, j'espère que vous avez aimé ce monologue, guys.
Exactement, je voulais te dire merci pour ce monologue, Samuel, et cette séance d'éducation. Donc, sur ce.
Et on se voit sur le prochain épisode.
Peace.